Radio Okapi.
La sortie officielle de l'Union sacrée de la nation a eu lieu ce samedi au stade des martyrs de Kinshasa. L'occasion pour les membres du présidium de cette plateforme politique qui ont pris la parole d'appeler tous les Congolais à l'unité. Ils ont aussi invité leurs militants à soutenir le chef de l'État. Un grand bastion des rebelles des ADF au village d'Apetinasana au nord Kivu est désormais entre les mains des FRDC depuis ce samedi. Une œuvre des FRDC bien sûr, appuyée par la brigade d'intervention de la MONUSCO. 17 rebelles des ADF ont été neutralisés et quelques armes de guerre récupérées. Vous suivrez dans ce journal les propos du capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1. L'invité de ce journal s'appelle Simon Zono Ingalea. Il est le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1. Bonsoir à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Sortie officielle de l'Union sacrée de la nation ce samedi au stade des martyrs de Kinshasa. Tous les regroupements, partis et personnalités politiques se sont donné rendez-vous pour marquer d'une manière particulière l'événement. Les membres du présidium ont tour à tour pris la parole pour appeler tous les Congolais à l'unité et leurs militants à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Reportage, Jacques-Yves Molima.
Tour à tour, Christophe Mbosso-Kodia, Modeste Bahati-Lukwebo, Jean-Michel Samalou-Kondé, Vital Kamere, Augustin Kabuya et Jean-Pierre Bemba sont passés à la tribune pour appeler à l'unité de Congolais. Si pour Christophe Mbosso, la RDC a plus besoin de l'unité en ce moment précis, l'occasion est également donnée à Augustin Kabuya d'appeler au rassemblement derrière le chef de l'État pour booster le pays. Pour sa part, le leader du MLC, Jean-Pierre Bemba, tout en soulignant que notre pays est victime d'un complot international, a déclaré, je le cite, « Soyons unis car notre unité enverra le message loin pour dire que le Congo est un et que personne ne pourra le diviser. L'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo sont non négociables. Si nous ne sommes pas unis, l'ennemi va facilement nous infiltrer. Même l'opposition, soyons unis en ce moment. » Fin de citation. Occasion également pour Vital Kamere de circonscrire que le pays est confronté à plusieurs crises, dont la crise économique. Et pour lui, il est important de conjuguer les efforts pour une production locale par l'agriculture pour lutter contre cette crise. Depuis le stade des martyrs, Jacques-Yves Molima Aouta, Radio Okapi.
Processus électoral à présent. Quatre leaders de l'opposition ont signé une déclaration commune dans laquelle ils disent non aux journées portes ouvertes du 25 avril au 4 mai de la CENI visant à informer les parties prenantes de l'évolution du processus électoral. Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delice Sanga renouvellent le contenu de leur déclaration du 14 avril dernier à Lubumbashi sur la CENI et le processus électoral. Pour eux, les journées portes ouvertes visent à donner un semblant de légitimité aux opérations électorales chaotiques. Ces membres de l'opposition, dont les partis politiques étaient invités le 28 et ce 29 avril, pensent que la CENI entretient la confusion dans l'opinion sur ce qu'elle appelle partie prenante au processus électoral, convié aux journées portes ouvertes du 25 avril au 4 mai. Le condensé de leur déclaration avec les Choualassa.
Dans cette déclaration commune, les quatre leaders de l'opposition indiquent que les membres actuels de la CENI n'ont pas le droit de brader les processus électoraux qui restent la seule voie constitutionnelle aux Congolais de doter le pays des institutions et des dirigeants légitimes. Ils accusent la CENI de manquer de transparence dans ses agissements. Ils demandent des éclaircissements sur, entre autres, le nombre réel des kits électoraux commandés, le contenu exact du cahier des charges de la société sud-coréenne Miru Systems, les détails sur l'imprimante qui a produit les cartes d'électeurs et les rapports détaillés par aire opérationnelle. Dans cette déclaration commune, les quatre leaders de l'opposition attirent l'attention du PNUD, de l'OIF et de tout organisme ou représentation diplomatique à éviter d'être instrumentalisés pour crédibiliser le travail de la CENI. Ils appellent les Congolais et Congolaises à rester vigilants pour empêcher la fraude électorale. Enfin, les signataires invite les Kinois à prendre part à leur marche du 13 mai prochain pour dénoncer l'insécurité dans le pays, la vie chère, la misère du peuple et le processus électoral chaotique.
Et puis, dans la province du Kwilu, les membres des centres d'inscription qui ont travaillé lors de la révision du fichier électoral dans la première ère opérationnelle au territoire de Bulungu montent au créneau pour réclamer à la CENI le paiement de leur salaire des périodes de contentieux, à savoir d'abord 25, ensuite 14 jours. Dans un mémorandum lu et déposé auprès de l'administrateur du territoire de Bulungu à l'issue d'une marche de protestation organisée dans la cité hier, ils disent avoir été victimes de l'injustice et de négligence de la part de la CENI qui ne veut pas leur payer leurs droits. Suivez un extrait de leur déclaration proposée par Irène Boma.
Mémo des agents temporaires de la CENI, antenne de Bulungu. À son Excellence, Monsieur le Président de la CENI à Kinshasa. Nous, les agents temporaires de la CENI de l'AO1 dans la province de Kwilu, venons de crier les pratiques inhumaines et ignobles que subit le MCI depuis la fin des opérations de la RFA qui a terni même l'image de la CENI depuis son existence. Or, nul n'ignore que la CENI est un organe pour l'appui à la démocratie alors que le pays se prépare d'aller aux élections. Sur ce, voici l'objet de nos revendications. 1. Retard de paiement de 25 jours plus 14 jours de contentieux depuis le mois de février. 2. Injustice de paiement. Privilégiant les uns qui quittent Bandundu-Vi, Idiofa et négligeant les autres, Bulungu et autres. Nous exigeons le paiement d'à 48 heures. Au cas contraire, de nombreuses actions seront successivement menées jusqu'à ce que nous aurons le gain de cause.
Notez que le président de la République s'est rendu ce samedi à Kisantu dans le Congo central. Félix-Antoine Tshisekedi est allé honorer la mémoire d'un enseignant, son ancien recteur, l'abbé José Ntemonsi, prêtre de ce diocèse qui a passé toute sa vie au service de l'évangélisation. Ce dernier est décédé à l'âge de 72 ans. Au Nord Kivu, FARDC appuyé par la brigade d'intervention de la MONUSCO annonce avoir récupéré ce samedi un grand bastion des rebelles des ADF au village d'Apetina Sana, situé à 15 km à l'ouest de la cité d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Selon le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1, c'était au cours d'une opération spéciale menée en deux étapes avec les casques bleus de la MONUSCO que ce bastion est passé sous le contrôle des FARDC. 17 rebelles des ADF ont également été neutralisés et quelques armes de guerre récupérées lors des combats. Le capitaine Anthony Mwanchai est joint au téléphone par André Kitenge.
Cette opération a connu deux étapes, sécuriser les agglomérations et là la MONUSCO a joué bien son rôle du 19 au 23 avril dernier. Et deuxième étape était de s'emparer de ces bastions ADF-MTM et les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi aujourd'hui à récupérer ces bastions après un affrontement acharné entre l'armée loyaliste et ces terroristes d'ADF-MTM. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser non seulement les terroristes ADF-MTM corps vu 17 au total et récupérer 4 armes de guerre de type AK-47, mais aussi s'emparer de ces bastions des terroristes ADF-MTM qui aidaient ces djihadistes à commettre des exactions sur la route Luna-Komanda. Au moment où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent non seulement le bastion des ADF qui était logé à Petina, mais aussi la route nationale numéro 4. Et continue également les opérations de ratissage de ces milliers pour donner totalement la paix à notre population.
Toujours au Nord Kivu, plusieurs barrières incontrôlées sont érigées à la fois par l'armée et aussi par les groupes armés et la rébellion du M23 sur les différents axes routiers du territoire de Masisi, affirment les sources de la coordination territoriale de la société civile. De leur côté, les organisations de défense des droits de l'homme précisent que de Sake, groupement de Kamuronza, jusqu'à Kachebere, groupement de Lubé-Rike, on compte 13 barrières où les voyageurs sont contraints de payer à chaque barrage une somme de 1 000 à 1 500 francs congolais et de Kachebere à Walika les centres, c'est la coalition Maïmaï FRDC supposée qui fait payer à chaque voyageur ou motocycliste une somme allant jusqu'à 2500 francs congolais. Cette situation entraîne un climat d'insécurité dans quelques entités quasiment incontrôlées par le gouvernement, affirment ces organisations. Émile Mohombo Baume de l'ONG Association des réhabilitations pour le développement des activités environnementales qui revient de la zone parle d'une cacophonie. Il explique au micro de Gabriel Wamenia.
À terme d'incidents de route. Nous avons observé sur l'axe environ 16 barrières.
Quel axe?
L'axe depuis Mubambiro jusqu'à Nyabiondo Kachepere. Nous avons observé environ 16 barrières. Et sur ces barrières, il y a des taxes qui se payent à chaque passant. Et ça indispose les passants, les habitants. Alors, au niveau de Biombo aussi, il y a une taxe qu'on appelle taxe Iranga Uzima, qui se paye à 2500 par le groupe armé. Comme à Mubambiro, vraiment ce sont des tracasseries. Il y a une barrière qui est bien connue à Mubambiro, à Rutoboko. À Rutoboko, il y a des barrières. Mais aussi au niveau des cafés, donc sur la montagne, il y a des barrières. Il y a des barrières à Babihambo, il y a des barrières. À Katal, il y a des barrières de péage route. Donc, toutes les barrières sont confondues. Péage route, taxes, en tout cas, c'est confondu. Ça indispose vraiment la population. Jusqu'à Walikal, c'est comme ça que ces barrières sont érigées. Vraiment, c'est la confusion totale. Tantôt des barrières qui sont érigées par nos éléments de défense incontrôlés, d'autres sont érigées par les groupes armés.
Toutes nos tentatives pour avoir la réaction du porte-parole du gouverneur et du secteur opérationnel Sokola 2 n'ont pas abouti. Près d'une semaine après l'incendie survenu au lycée Mwanga à Kolwezi, le député provincial du Lualaba, Patrick André Kakwata, appelle à la solidarité pour la réhabilitation de cette école des filles. Pour l'initiateur de cette action, en dehors des infrastructures qui ont été sérieusement endommagées, les élèves ont aussi tout perdu. On écoute Patrick André Kakwata, joint par Jean Ngandou.
L'éducation étant une priorité, et surtout que nous comptons beaucoup sur notre jeunesse, nous sommes en pleine année scolaire, bientôt c'est la fin. Mwanga a besoin d'un soutien de tout un chacun. Mwanga a formé plusieurs élites qui se retrouvent à ce jour à travers le monde entier. Face à l'urgence de la scolarisation de nos jeunes, nous demandons à toute personne, épris de bonne foi, de bien vouloir contribuer à la reconstruction de Mwanga parce qu'ils ont tout perdu. Les dégâts matériels, il faut noter que c'était tellement important. Aujourd'hui, on parle de la reconstruction. Oui, c'est du bâtiment. Mais quand ces enfants quittaient les salles de classe, ils ont laissé leurs cartables. Les bancs ont été consumés, les cartables consumés. Et même pour les sœurs, il y a eu perte de plusieurs effets. Raison pour laquelle, si nous sommes épris de bonne foi et que nous pouvons démontrer notre amour du prochain, le moment est venu pour que nous puissions contribuer, ne fût-ce qu'avec un franc, que tout un chacun contribue selon ses propres moyens. Ce n'est pas une obligation, c'est une demande.
Patrick André Kakwata indique que pour toute contribution, les donateurs peuvent le faire à travers les numéros de la sœur responsable de cet établissement scolaire au numéro suivant 097 44 65 990 et le 082 47 06 338. Je reprends 097 44 65 990 et le 082 470 63 38. Dans la province de Lomami, lancement hier à Mweneditu de la campagne de sensibilisation contre les antivaleurs lors de la passation des différentes épreuves liées à l'examen d'État édition 2022-2023. À cette occasion, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Lomami 2 a réuni quelques membres de la communauté ainsi que certains services impliqués dans la surveillance de cette épreuve pour donner des orientations. Innocent Lucienne Ikom, inspecteur principal provincial de la province éducationnelle de Lomami 2, est au micro des journalistes de Mweneditu.
Vous avez vu les messages, vous avez vu les affiches et vous avez vu les figures du chef de l'État qui donne déjà le go, qui donne déjà des orientations et il donne un mot d'ordre, pas d'antivaleur dans tous les secteurs. Et nous sommes venus justement vulgariser ces instructions. Nous avons appliqué une approche pédagogique et de façon holistique à toucher tout le monde, toutes les couches. Personne n'est resté en marge. C'est la lutte de tout le monde. Le message lui-même le dit, est clair. Le message est plus explicite. Le message fort que j'envoie à la direction de la communauté, de tout le monde, c'est de mener une lutte acharnée contre la tricherie au centre de passation des épreuves. TENAFEP, TENASOS, examen d'État. D'éviter de combattre le système de labo. On s'utilise parfois des questions, on les prépare en dehors du centre et ça rentre par plusieurs voies impliquant peut-être l'OPJ qui est là, le surveillant qui est là, voire même le chef de centre. Nous devons tous lutter contre cela pour une réussite méritée. Que les surveillants fassent correctement leur travail, moi seul non, les proviseurs seul non, les dépenseurs, tout le monde, tous nous avons impliqués dans cette lutte.
Parlons santé à présent. Plus de 500 personnes sont décédées de paludisme en 2022 et plus de 800 000 cas de paludisme simple ont été enregistrés la même année dans la province du Tanganyika. Propos du ministre provincial de la Santé de cette province au cours de la célébration hier à Kalemie de la Journée internationale de lutte contre le paludisme. Kabezia Morisho a par cette occasion rappelé l'importance de l'implication active de toutes les parties prenantes dans la lutte contre cette maladie. On l'écoute dans cet extrait choisi par Paula Munanga.
La province du Tanganyika enregistre au cours de l'année 2022 802 314 cas de palu simple, 44 459 cas de palu grave, dont 32 280 cas de palu traités selon la politique nationale et 547 cas de décès. Il faut également rappeler ici les efforts consentis par le niveau provincial, notamment la l'alignement du personnel au salaire et à la prime de risque, la construction des infrastructures de base, l'accompagnement des zones de santé dans la mise en œuvre des activités et l'engagement de la communauté dans cette lutte. La lutte étant multisectorielle, nous avons besoin de l'implication de tout un chacun en ce qui les concerne pour vaincre ce fléau dans notre cher et beau pays en général, ainsi que dans la province du Tanganyika en particulier, afin de protéger nos communautés.
L'invité. L'invité de ce journal est le directeur de la province éducationnelle Sud Kivu 1, Simon Zono Ingalea. Parle de l'importance de la journée porte ouverte qu'il a organisée hier avec les chefs d'établissement scolaire et les partenaires techniques et financiers de son ressort à l'occasion de la célébration de la journée de l'enseignement en RDC. Simon Zono Ingalea s'entretient avec Jean Kassami. Suivez.
Monsieur le directeur provincial de la province éducationnelle du Sud Kivu 1, Simon Zono Ingalea, bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de la commémoration de la journée de l'enseignement, aujourd'hui, au Sud Kivu, vous avez préféré regrouper les chefs d'établissement.
Dans le cadre de la commémoration de cette fête dédiée à l'enseignement, il nous a été recommandé par notre hiérarchie l'organisation de plusieurs activités au nombre desquelles les journées portent ouvertes, mais aussi des conférences et la clôture des tournois ou des championnats interscolaires. Aujourd'hui, j'ai estimé qu'il était impérieux de pouvoir tenir une conférence et moi j'ai choisi pour thème la mutualisation des actions de l'État et des acteurs non étatiques pour une éducation inclusive, holistique et de qualité de la jeunesse de la province éducationnelle du Sud Kivu 1.
Et donc pourquoi le choix de ce thème?
Parce que l'éducation, c'est une œuvre exaltante, noble, mais qui nécessite beaucoup de ressources. L'État seul ne peut pas arriver à réaliser toutes les tâches qui lui sont assignées pour mener à bon port l'éducation de la jeunesse, qui est le socle du développement de la nation. Ainsi, à la faveur des traités internationaux, à l'instar des recommandations de la conférence d'Oslo en juillet 2015, et à la lumière également de la loi cadre de l'enseignement national de notre pays, en ses articles 20 et 21, notre État a signé des accords de partenariat aussi bien avec les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec des partenaires éducatifs, pour arriver ensemble à mutualiser leurs efforts, à travailler en synergie pour le seul objectif d'offrir à la République une élite qui prendra en charge son développement demain. Et cela passe aujourd'hui par une formation de qualité inclusive à assurer à la jeunesse.
Alors, comment appréciez-vous personnellement l'apport de partenaires dans l'amélioration des conditions de l'enseignement au Sud Kivu?
Je dois sincèrement vous dire que je suis très ravi de dire que la province éducationnelle du Sud Kivu a une opportunité lui offerte par une avalanche de partenaires techniques et financiers, ce qu'on ne trouve pas forcément sous d'autres cieux dans notre pays. En dehors de l'UNICEF, vous avez beaucoup d'ONG internationales, même des ONG du niveau national, qui viennent en appui à l'État congolais pour la formation de sa jeunesse. En dehors de l'UNICEF, je citerai World Vision, Save the Children, TPO, FHC. Eh bien, la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que les gens viennent et ils apportent effectivement des appuis en matière soit de la construction des bâtiments scolaires, les rééquipements, ils apportent leurs interventions en faveur de l'éducation des enfants grâce à la formation continue des enseignants et des chefs d'établissement et même des inspecteurs. Et donc, nous devons saluer cette synergie-là parce que aussi, il faut mettre en relief le fait que, au Sud-Kivu, l'État congolais a suffisamment investi en matière de l'éducation.
Pour dire que les besoins de l'enseignement dans votre province éducationnelle sont assouvis.
Dire qu'ils sont assouvis, ce serait trop dire parce que l'éducation, au fait, c'est un processus. Nous avons fait beaucoup d'avancées, nous avons engrangé beaucoup de résultats assez costauds, mais il y a des challenges que nous devons continuer à relever.
Quels sont ces défis-là, les défis majeurs du moins?
Nous avons 4510 écoles au total. Mais le taux d'écoles construites en dur oscille autour de 64%. Donc nous avons encore au moins 36% d'écoles dont les bâtiments sont construits en matériaux périssables.
Monsieur le prophète Simon Zono Ingaleya, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie, Jean-Christophe.